j'aurais eu un problème. C'est que le point de vue philologique, la notion de création en hébreu, c'est baro, bet, resh, aleph. Ce même mot existe en araméen, baro. Et en araméen, ça veut dire mettre en dehors et faire fils. Alors qu'en hébreu, ça veut dire créer à partir du néant. Si la Torah était donnée en araméen, la théologie serait différente. Ce serait une théologie du Père et du Fils. Mais il s'agit du Créateur et de la créature, et non pas de Dieu le Père, Dieu le Fils. Mais du Créateur comme Père, c'est le premier mot de l'alphabet hébraïque, Aleph Bet, ça fait Av, et puis du monde comme Béré, l'écoute de comme dit l'araméen, c'est-à-dire la créature, c'est-à-dire le Fils du Créateur. Et effectivement, vous avez en araméen cette connotation de la racine baro qui signifie mettre en dehors, faire exister. En latin, existere. Et vous l'avez dans une mira du vendredi soir. Hevat bara ve'ofe shmaya. L'araméen, et je vous le dis en hébreu, hayot asade ve'ofe shamayim. Hevat bara, en araméen ça veut dire hayot asade. Les bêtes du champ. Bara, en araméen, c'est le champ. Ce qui est en dehors de la ville. Ceux qui connaissent l'arabe, c'est bra en arabe. C'est-à-dire brané, l'étranger. Et oui, c'est cette notion de faire fils. Bar, en araméen, c'est le fils. Alors vous voyez, la relation entre le créateur et la créature, c'est la relation de filialité d'engendrement. Et c'est la mentalité magique païenne grecque qui a inversé tout ça. Et à parler de Dieu le Père, Dieu le Fils. J'ai même entendu une fois un kabbaliste chrétien, ne vous étonnez pas, il y a même des, j'allais dire des rabbins chrétiens, de quoi je parle. Enfin, je dis aux chrétiens, oui. En tout cas, pour qui au sujet, expliquer cela, comme ça, Bara, c'est Ben, Ruach et Av, Bet, Resh, Aleph. Bon. Alors, on peut assumer tout cela, ça c'est des jeux midrashiques d'enfants de cœur, mais à condition de leur donner un sens hébraïque. Il y a évidemment cette notion où nous allons voir l'être de Dieu donner l'être au monde, dans une relation de filialité. Dans d'autres études, nous étudierons que le problème de la Torah, du récit historique de l'humanité pour la Torah, c'est la recherche de la fraternité. Et puis, la relation de fraternité a été impossible à réussir. Caïn a tué Abel. Alors Dieu a suscité la relation du père au fils qui est plus, comment dire, qui est plus, le mot m'échappe, plus accessible à une solution. La rivalité entre les frères, c'est une rivalité incontournable. Elle n'est pas encore réussie. Ce problème n'a pas encore trouvé de solution. On en a parlé un peu hier, notamment le fils de David, et puis il s'appelait Shlomo, l'homme de la paix. Et tout le récit des vies, c'est une série de récits, de tentatives, de résolution de fraternité entre des frères ou des demi-frères, et ça ne marche jamais. Alors que le père vis-à-vis du fils, si l'autre c'est le fils vis-à-vis du père, et là j'ai une gemara en tête, la relation du père au fils n'est pas dangereuse. C'est chez les Grecs que la relation du fils au père est dangereuse, d'Édipe, on a vu tout ça. Mais si l'autre, c'est le fils, alors que peut-être, à travers la relation au fils, on va sauver la relation au frère. S'il y a des chrétiens dans la salle, vous entendez beaucoup de choses concernant les mystères chrétiens. Pour arriver à l'amour du prochain, il faut passer par l'amour du fils. Mais dans des catégories je répète, non, j'allais dire une bêtise, le type. Dans des catégories, en tout cas étrangères, à la mentalité biblique. Eh bien, voilà donc ce qui se passe. L'espace du monde a existé. Et il y a dans la Kabbalah toute une série d'études sur ce point d'être de l'origine qui a été néantisé pour que le monde puisse exister. Je vous cite simplement une Gemara qui se passe sur un verset pour les hébraïsants, Adam qui yamut ba'ohel, et c'est Adam Kadmon. Je referme la parenthèse. Et alors, voilà que le vide est apparu. Ce vide, beaucoup plus tard, sera appelé Makom, l'endroit. Mais c'est la lumière qui entoure le vide, qui est en réalité le Makom de ce Makom. Ça vous fait comprendre pourquoi, en se référant à Dieu, on l'appelle le Makom du monde. Parce que c'est au sein de Dieu que le monde est en gestation. D'où d'ailleurs ces figures de l'embryon dont je vous parlais tout à l'heure dans ma parenthèse philologique. Eh bien, et première définition d'une catégorie, je ne veux pas dire concept, de la Kabbalah qui est le Tzimtzum, c'est cet évidement pour laisser place au monde. Et là, c'est un sens particulier du verbe le Tzamtzem, comment dire en français, Tzamtzit. Le Tzamtzem, contracté. Et ça, c'est le sens talmudique du mot Tzimtzum. Par exemple, la Shrina se contracte pour résider entre les crouvis, entre les chérubins. Mais il s'agit, dans le Tzimtzum de la Kabbalah, de l'inverse. C'est un mouvement qui va du centre à la périphérie, un mouvement d'évidement. Alors, je vais me lever pour vous marquer ça, et après je vous rassure. Oui. D'un point de l'absolu, et c'est pas un point du Ensof mais du Or Ensof, et je referme la parenthèse, à partir d'un point de l'absolu, de la lumière infinie, et peu importe où, parce qu'en fin de compte, à partir de ce point, à travers une infinité de mondes, c'est le cœur de chaque homme, et donc peu importe où ce point est apparu, parce que chaque homme est le centre du monde. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Vous voyez comment ça se relie avec les notions talmudiques. Et il y a cette force d'évidement qui va rejeter la lumière qui était dans ce point primordial que les kabbalistes appellent Anekuda Aemzait, et elle va le rejeter à l'extérieur. Mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que la lumière extérieure est une substance simple, comme disent les philosophes. Et la substance simple ne supporte pas de complexité. Et par conséquent, elle rejette dans ce halal immédiatement la lumière retirée. Donc le monde ne peut pas exister. Il faut que soit suscitée une force qui empêche la lumière de revenir dans le halal. C'est clair? Cette force s'appelle en hébreu Shaddai. Et c'est ce qu'on traduit par tout-puissant. C'est cette gevoa, cette vaillance du Créateur qui se retient de laisser sa lumière envahir l'espace du monde. Et en français, on pourrait dire, poétiquement, que le premier nom de Dieu, c'est le Dieu des limites, la limite entre sa divinité et son monde. C'est une force gigantesque qui est là et qui est l'abri du monde. Si cette force ne joue pas, le monde est détruit, est envahi par Dieu, par l'être absolu. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors je crois que dans notre existence, le geste que ça représente, c'est se retenir d'avaler l'autre. Vous voyez le danger de l'amour non contrôlé par la sagesse. Je t'aime tant que je t'avalerai. Je te mangerai. Oui, il faut faire attention à ça. Ish et Rehu Haim Belao. Et ça, c'est païen. Je t'aime tant que je ferai de toi mon repas sacré. Et ça, c'est Padani dans toute sa violence. Faites attention au piège du langage. Hein. C'est pour ça qu'on dit je t'avalerai, je t'aime tant que. C'est de la théologie de cannibale. En tout cas, pour l'anthropophage. En tout cas, pour revenir au problème, c'est cette force qu'on appelle la Geboura, la vaillance de Dieu. Avoir mis une limite entre sa divinité et son monde. Cette force qui joue à la périphérie de ce vide Non, je n'ai pas parlé de ce qui va lui arriver à ce vide. Eh bien, ça s'appelle Chagall. Et c'est une gouvra. Alors comment traduire gouvra? Cette vaillance qui consiste à être plus fort que soi pour qu'il y ait place pour le Fils, c'est-à-dire le monde. Le Midrash explique, il donne trois explications du mot Shaddai. Je ne cite pas les trois, sinon on serait là demain matin. Mais celle qui nous concerne, Shehama, les Olamo Dai, les Elakuto Dai, qui a dit, jusque-là, ça suffit à sa divinité, et jusque-là, ça suffit à son monde. Il y a une limite. Je vais faire un peu de folklore, surtout pour les Nord-Africains, ou même les Sfarades de Salonique. Parce que un malheur risque d'arriver, je ne sais pas moi, une voiture qui va risquer d'écraser un enfant, la grand-mère dit « Shaddai ». Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Oui. Elle fait appel à cette force qui met une barrière entre l'absolu et l'être relatif du monde, que cette force joue. Et elle joue. Alors certains disent, ça c'est un folklore qui risque de disparaître. Peut-être que à la rue pavée des bonnes intentions, ça reste ici, mais sous forme un peu. Bref, et certains disent Arabi Shimon, on fait appel à Arabi Shimon Bar Yochai, ou Arabi Meir, et puis la voiture s'arrête. En tout cas, pour vous dire comment ça se traduit dans le folklore juif. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, j'en parlerai tout à l'heure encore, j'y reviendrai, c'est que les Grecs ont pressenti l'existence de ce mystère qui permet au monde d'exister, à l'abri duquel le monde existe. C'est le nombre pi. C'est le mystère du nombre pi. La relation entre la droite et le cercle, on y arrive. Et effectivement, le nombre pi exprime cette chose inexprimable, la relation entre le rayon et la circonférence. Or, on sait que ça existe, c'est réel, cette relation. Elle est le secret des formes du monde, mais on ne peut pas la chiffrer, on ne peut pas la nommer, c'est un innommable. Or, la valeur numérique de Shaddai, c'est 314. Mais ça, c'est une coïncidence. Oui, Shin, 300, Dalet, 4, et Yud, 10. Alors, Shaddai, c'est pi, c'est ce nombre pi. Et il y a une allusion dans le texte biblique, cet ange à l'épée tournoyante, qui trace la circonférence avec un rayon, et qui protège le paradis perdu du monde de l'existence. Et alors, c'est cette barrière qui est le nombre pi. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure quand je parlerai du cercle de la droite un peu plus en détail. Est-ce que jusque-là c'est clair? Pour que le halal ne soit pas détruit, c'est la première fois qu'on emploie ce terme de horban, le harev, détruire, en faire ruine de l'espace du monde pour empêcher l'absolu de faire irruption dans le monde, il faut qu'il y ait une force, qui est la vaillance de Dieu, qui retienne l'absolu de revenir dans le halal. C'est clair, justement. Alors, tous ceux qui ont appris cette expression dans le Talmud, qu'on a entendu la Torah, mi pi agvura, ça c'est clair maintenant. Quelle est la racine de cette Torah qui nous est révélée? C'est ça. Cette gvura, cette vaillance, qui fait que pour Dieu, le monde peut exister. Cette Torah-là nous a été donnée à nous, à chacun. Il faut faire une place pour l'autre. Là, on va rejoindre Levinas. Mais vous voyez comment les mots traditionnels, les expressions traditionnelles ont un sens simple. Qu'est-ce que ça voulait dire? La Torah est révélée de la bouche de la vaillance. Mais puis à Gvura, la Torah concerne notre monde. La Torah réclame d'abord comme vertu d'être Gibor, de être plus fort que soi pour créer l'autre. L'acte moral par excellence, c'est s'occuper d'autrui. Alors il y a plus absolu que cela, c'est faire exister autrui. Donc quand Dieu crée le monde, encore une fois, c'est un acte moral, c'est pas un acte métaphysique. Les Grecs vont disserter sur l'impossibilité de cet acte métaphysique, ils vont donner congé à Dieu parce qu'il ne trouve pas de place pour Dieu dans le monde. Mais le vrai problème, c'est la place du monde en Dieu, c'est-à-dire l'inverse. Vous voyez pourquoi il faut recommencer à penser hébreu. Les Juifs étaient d'origine hébraïque. Et l'assimilation, c'est quand on n'est plus d'origine hébraïque. Le problème des Israéliens, c'est qu'ils sont d'origine juive. Et le problème de la société israélienne, c'est le risque d'oublier l'origine juive. Vous voyez le drame de ce peuple, c'est un peuple insensé. Je veux vraiment dire, c'est un peuple pas possible. Hein? Quand il est juif, il oublie qu'il est hébreu, et quand il est hébreu, il oublie qu'il est juif. En tout cas, pour revenir au sujet. Et voilà que l'espace du monde est désert, et le souffle de Dieu volpé à la surface des eaux, et il y avait obscurité sur la face de l'abîme. C'est le tchad de la Torah. Hein? Alors il y a un cri qui apparaît, que la lumière soit. Qui est-ce qui crie? C'est ce vide qui crie. Imaginez le cri qui procède de ce halal et qui dit « Yehio, qui est lumière ?» Alors la lumière revient. Mais elle ne revient pas comme elle était partie. Parce que si elle revenait comme elle était partie, elle détruirait le halal. C'est clair. Alors il y a un deuxième tzimtzum qui se fait dans le rayon de lumière qui va pénétrer dans le halal pour, en fin de compte, construire le monde. Et ce tzimtzum, il n'est pas comme le premier tzimtzum, je vais le dire en hébreu, vous m'aiderez à traduire, « itroknout », évidemment. C'est un tzimtzum de « itma'atout », amoindrissement. Parce que si la lumière revenait dans toute sa plénitude, dans son « tokef », comme on dit en hébreu, elle détruit le halal. Alors elle revient, mais atténuée à l'infini, un rayon. Et ce rayon va pénétrer dans le halal. Avant d'aller plus loin dans l'exposé, est-ce que c'est clair? Et voilà comment l'impossibilité de l'existence du monde a été résolue par le Créateur, c'est-à-dire par la Kabbalah. Par la Kabbalah, c'est par le Créateur. Et la lumière est retirée d'un point de l'absolu, l'espace du monde apparaît, elle revient. Mais elle revient avec une histoire de constitution d'un monde qui en fin de compte sera l'autre que Dieu. Pour le moment, nous sommes en stade embryonnaire de la constitution de cet autre que Dieu qui est notre monde en cours d'histoire. Et cela, il faut bien le percevoir. Pour la pensée kabbaliste, le monde n'est pas encore. Il existe en constitution d'être. En hébreu, pour dire histoire, on dit les engendrements. Quelque chose est en train de s'engendrer. Et alors, nous sommes en cours de cet engendrement. Les kabbalistes savent à quel stade. Je dois vous dire, on est très près de combien il y a d'années dans le calendrier hébraïque? 5756. Vous calculez en 1996. Mais calculez en hébreu. On est en 5750. C'est très proche de 6000. Et après 6000, c'est 7000. Vous avez compris ce que je veux dire. À la fin des six jours, il y a le septième. Et si vous ne comprenez pas, laissez-vous traverser. Un jour, j'ai demandé à un de mes maîtres, j'ai pas compris. Il me dit, c'est pas grave, ton âme a compris, elle va t'expliquer. Et alors, la nuit, votre âme vous expliquera. Mais ça veut dire qu'on est... Je voudrais vous citer mais vous avez compris, d'ailleurs. Je vais vous citer, vous faites Shabbat, un peu avant la nuit, hein. Alors faites la proportion, vous voyez qu'on est déjà dans Erev Shabbat. Et alors, comment ça fait Erev? Allez, on va se réveiller un peu. Erev 272, enlevé de 6272, ça fait 272 et 6000. 5728. Ça vous dit rien cette date-là? C'est l'année d'après. Il a fait. Regarde aussi. Et alors, en hébreu, c'est l'année Hatashkar. Hatashkar. Et il y a un verset dans le prophète. Hatishkar, Hisha, Oula. Étudiez bien ce prophète. Et vous verrez qu'on ne nous a pas oublié cette année-là. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a un engendrement qui est en train de se faire. Et c'est l'histoire du monde comme l'autre que Dieu engendre dans ce halal. Et on est tout au début du commencement de ce processus dans cette description. Est-ce que jusque-là ça va? Bon, si vous avez une question, ça me donnera une minute pour me reposer. Une question. Vous connaissez l'histoire de cet étudiant de yeshiva lituanienne qui se baladait dans les couloirs d'Orsay et qui disait « J'ai des réponses, donnez-moi une question. » Attendez, il y en a.
J'ose poser une question. Voilà, c'est la suivante. À savoir que j'ai bien compris la Goura divine qui doit surmonter sa force pour faire place à l'autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre Goura? Parce que celui qui laisse la place à l'autre.
Non, pas sa place, une place.
Une place. Ouais. Celui qui laisse une place à l'autre, il le fait souffrir aussi.
À l'autre?
Oui.
Si vous saviez à quel point un embryon souffre, c'est l'angoisse.
Ce que je veux dire, c'est que le paradoxe du paradoxe, c'est qu'il y a, et ça c'est un fait d'expérience, quand on donne à quelqu'un, eh bien, il arrive que le don qu'on lui a fait, bizarrement, le fait souffrir.
Exact. Écoutez, là, vous êtes en plein dans le sujet, plus loin dans le discours kabbaliste, c'est cette question-là. C'est la vraie question. C'est, nous naissons d'Égypte. Et l'Égypte nous a mis au monde. Et c'était un accouchement au forceps. Mais, c'est vrai, bien trop d'accord, vous voir les trucs. Et imaginez cette difficulté d'être, de l'être en train d'être engendré. L'Égypte s'appelle un peu Mitzrayim, Metzar, du dedans. De la matrice resserrée. On est dans ce processus. Effectivement, la première question que nous posons à nos maîtres, c'est cet acte d'amour qui est le don de l'être de la part du Créateur, mais nous le recevons dans un enfer. Est-ce que c'est vraiment un don d'amour de nous faire exister dans la vie des hommes? Il n'y a qu'à lire la littérature humaine tout entière, cette grande plainte de l'existence humaine. C'est pas ta question?
C'est presque ça. Presque ça. C'est pour moi qu'il la comprend en sens d'un vrai amour, sans souffrance, parce qu'il n'y a pas une souffrance dans le fait de recevoir.
Très bien.
Il n'y a pas une tikkouna à apporter à cette.
Très bien. Vous permettez une petite parenthèse? Parce que c'est extraordinaire. Je vais vous dire, depuis le début du séminaire, il a une place particulière dans mon séminaire. C'est parce qu'il parle hébreu. Alors ces questions sont de Varro. Et alors, la question est la suivante. Recevoir, tant qu'on n'a pas mérité, c'est l'enfer. Le verset dit, Tzadik sonne matanot. Le juste haït les cadeaux. Vous savez pourquoi? Il faut les rendre. C'est-à-dire, chez les nations, au contraire, ce don de l'être est une grâce reçue. Mais le fait d'avoir reçu sans avoir mérité, c'est l'enfer. C'est ta question. Et alors, Et alors on refuse. Ça s'appelle Zivouk Dehaka. Dehaka. Comment on va traduire ça en français? Une union de répulsion. Alors, celui qui reçoit renvoie, refuse. Et jusqu'à ce que le va-et-vient de la lumière fait que le véhicule de réception est suffisamment affiné pour être capable de recevoir. Alors je vais vous dire comment, au niveau du Talmud, ceci est enseigné. C'est que et celui qui reçoit donne plus à celui qui donne que celui qui donne à celui qui reçoit. C'est vous. Et alors, c'est pourquoi, je vous donne un exemple que nos maîtres nous ont enseigné. Par exemple, dans ce qui se passe maintenant, je vous parle. Je suis sujet, vous êtes objet. Alors il faut qu'il se passe quelque chose de réciproque, de restauration de la dignité d'autrui, comme dirait Kant. Vous devez recevoir d'une certaine manière, qui restitue ma dignité de donneur, mais je dois donner d'une certaine manière, qui restitue votre dignité de receveur, sinon il refuse. C'est pour ça que de temps en temps je vous fais rire. Parce que sinon il y a des étincelles. En tout cas, pour revenir au sujet, c'est une question. C'est Ratson Lashpia, Ratson Kabel. Alors il y a les Kabel Alvinat Lekabel, les Kabel Alvinat Lashpia, les Ashpia Alvinat Lashpia, et les Ashpia Alvinat Lekabel. C'est le quatre niveaux des quatre niveaux. Bien. Bon, alors après cette parenthèse, on continue. Alors voilà que la lumière, revenue dans ce halal, va rencontrer des niveaux de vide. Parce que ce vide n'est pas complètement vide. Lorsque la lumière s'est retirée, elle s'est retirée, mais elle a laissé une trace qui s'appelle Rishimu. Rishimu en araméen, c'est Roshem en hébreu. Elle a laissé une trace des étapes du vide. Entre le centre et la périphérie, on est plus ou moins loin de la lumière. Et donc, les étapes du vide ne sont pas égaux, ne sont pas neutres. Le vide n'est pas homogène, mais soit complètement vide. Et il y a les niveaux du vide. Lorsque le rayon repénètre, il va s'irradier en sphères dans ces niveaux du vide. Et c'est là qu'apparaissent les sphères qu'on appelle en hébreu les sphirot. Et je crois que c'est une coïncidence. Je ne sais pas si sphère et sphira, c'est de la même racine. En tout cas, j'espère qu'on ne va pas étouffer. Il faudrait faire un peu de commentaires. La pause. Alors, j'attends que mes amis reviennent. Ouvrez aussi la porte pour faire du courant d'air. Sinon, dans un moment, on va être des juifs étouffés. Et alors, donc, apparaissent des sphères de cette lumière diminuée qui vont constituer la première structure du monde et qu'on appelle les sphérotes. Et plus ou moins la sphère est éloignée de la périphérie de lumière et plus ou moins elle est noble. Alors cette hiérarchie des 10 sphérotes, c'est la hiérarchie de proximité avec la lumière de l'absolu. Et je ne vous parlerai pas des sphérotes, sinon de vous dire que ces sphérotes sphériques sont la racine du monde de la nature, l'être impersonnel du monde. Ça ne veut pas dire que l'être personnel n'est pas enfoui dans cette lumière impersonnelle, mais c'est le côté impersonnel de la lumière qui est dans les sphérotes circulaires. Et alors, nous avons donc une première structure du monde, le cercle. La perfection du cercle, c'est la perfection de l'être impersonnel, c'est-à-dire la nature est circulaire. Et nous verrons que la droite, c'est l'être de l'homme. Et tout le problème, c'est la relation entre l'homme et la nature, c'est-à-dire la droite et le cercle. C'est le mystère du nombre pi qu'on va retrouver encore tout à l'heure. Et alors, dans l'existence de ce que seront les mondes, s'il y a polarisation sur le cercle, c'est le pôle féminin. S'il y a polarisation sur la droite, c'est le pôle masculin. Je ne pousse pas le symbolisme plus loin, mais il est clair. Et y a donc une relation à différents niveaux entre la droite et le cercle, qui est la dialectique de l'existence de ce monde qui va apparaître. Je reviens encore une fois, j'aurais pas fini, sur ce mystère du nombre pi. Je vais dire tout de suite ce que je veux dire là, et on reviendra plus tard. La forme de la vie est toujours un compromis entre le cercle et la droite. Le mystère du nombre pi, c'est le mystère de la vie. C'est El Shaddai, d'ailleurs le nom de la Sphira Yesod, pour ceux qui savent les correspondances. Eh bien, c'est ce compromis entre le cercle et la droite qui est inchiffrable, qui est innommable, qui est le vivant. Lorsque l'homme et la nature ont résolu leur incompatibilité. Parce qu'il y a là l'incompatibilité entre le monde de l'impersonnel et le monde de la personne. Tout le problème de la philosophie juive, c'est est-ce que Dieu se perçoit à travers les cercles ou à travers la droite. S'il se perçoit à travers les cercles, c'est le Dieu de la nature. Et l'homme est perdu dans cette nature. qui se perçoit à travers la droite, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'homme, c'est le Dieu de Judas et Lévi, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Tout ce conflit du Moyen-Âge, c'est le conflit entre la droite et le cercle. Les goyim ont connu ce problème. Qui est plus parfait, le cercle ou la droite? Alors on se demande, mais